l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Le témoin de ce vendredi, Jean d'Ormesson.
Notre clé à nous, c'était le temps.
Voyez-vous, mes enfants, moi qui ai toujours vécu dans le passé, c'est à votre avenir que je pense. À ce que vous deviendrez dans ce monde.
Qu'est-ce que le présent, au fond? Peu de choses. Il est pris entre la survivance du passé, qui jamais ne renonce, et l'attente, l'annonce de l'avenir. L'avenir qui, une fois inscrit dans nos cerveaux, deviendra du passé. Et pourtant, dans ce présent, il est possible à l'homme d'exercer sa liberté par ses questions, par ses actions. Optimisme de commande à la Jean d'Ormesson, direz-vous. Facile à soutenir par quelqu'un sur qui se sont toujours penchés de bonnes fées. Mais dans le cas précis de notre invité d'aujourd'hui, il s'agit d'un vrai exercice constant, tendu, pour trouver la clairière dans la forêt, l'éclaircie du bonheur au-dessus des arbres. Son gai savoir opère à merveille sur beaucoup de nos compatriotes. On dit que ses livres prolongent la vie de ses lecteurs, en tout particulier en mande ses lectrices. En même temps, en présentant son profil d'ancienne médaille à la télévision, il a touché beaucoup les nouvelles générations. Il est le symbole vivant de la solidarité mystérieuse entre ce qui meurt et ce qui vient. Il est, dans notre France un peu engourdie, un maître du mouvement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Alors, une pléiade, on s'en souvient, numéro 605. Cet été, bouquin, une gerbe de textes nouveaux ou anciens. Et maintenant, un petit livre, un bref manuel à mettre dans la poche. Hein, parce que bouquin, c'est gros. La pléiade, c'est gros. Ça s'appelle
Le guide des égards. Et en effet, c'est un livre tout petit, il a moins de 100 pages.
Et qui fait de l'histoire peut vite s'égarer. Alors je me suis dit qu'à la lumière de vos livres anciens et de ce bref manuel pour trouver de la hauteur et du plaisir dans la vie, vous pourriez peut-être nous servir de guide. Parce que l'histoire, c'est une grande préoccupation pour vous. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous lisez au moins autant de livres qui témoignent de la culture scientifique d'aujourd'hui que d'histoire.
J'ai beaucoup lu d'histoire. Vous savez, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai préparé l'agrégation d'histoire. C'est une espèce de délire. J'ai préparé l'agrégation de lettres et puis l'agrégation d'histoire.
Et vous avez eu l'agrégation de philosophie.
Et j'ai eu l'agrégation de philosophie. Alors qu'Althusser Althusser, c'était mon maître à l'école normale, maître et camarade.
Il me disait... Oui, parce qu'il était un peu communiste, c'est ça que vous voulez dire.
Non, je faisais allusion à son âge. Il avait à peine 10 ans de plus que nous. Et je l'aimais beaucoup. Et il me disait, tu peux faire toutes les agrégations que tu veux, sauf l'agrégation de philosophie. Alors évidemment, c'est celle que j'ai voulu faire. Mais j'ai toujours aimé passionnément l'histoire. Quand vous dites que je lis des livres scientifiques, j'essaye de les comprendre, vous savez. Si j'arrive jusqu'au bout d'un livre scientifique, je m'arrête à peu près au milieu.
Oui, mais enfin, on en parlera peut-être, vous êtes très préoccupé par l'univers en expansion dans lequel s'enchevêtrent nos vies indéchiffrables. L'histoire, c'est un bordel innommable quand même pour un agrégé de philo. Paul Valéry disait que c'était perdre son temps, que d'entrer dans le labyrinthe de l'histoire.
Écoutez, je n'écrivais pas aux écrivains quand j'étais jeune. J'ai écrit un jour à Paul Valéry, parce que je l'admirais beaucoup. Je devais avoir 18 ans, hein, 17 ans. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Et je lui dis, je viens de renoncer à l'agrégation d'histoire. Il s'est levé. Il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé et il m'a dit « Comme vous avez raison, l'histoire ne sert à rien. Et qu'est-ce que vous faites maintenant ?» me dit-il avec bonté. Et je lui dis « Je prépare l'agrégation de philosophie. » Il s'est laissé retomber dans son siège et il m'a dit « Mais c'est pire
!» Mais c'est quoi l'histoire à vous lire? C'est des tempêtes entrecoupées de catastrophes, à moins que ce ne soit des catastrophes entrecoupées de tempêtes.
Bien sûr, c'est des catastrophes. Alors je dirais deux choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Je dirais que l'histoire, c'est ce qui empêche l'avenir d'être n'importe quoi. C'est une formule qui n'est pas de moi, mais que j'ai trouvée assez belle. Et on m'a souvent reproché d'être l'écrivain du bonheur, ce que je ne suis pas. Vous savez, je suis plutôt pessimiste. Je serais plutôt l'écrivain de la gaieté, peut-être. Et on me disait, vous ne parlez jamais du mal. Eh bien, je pense que l'histoire, finalement, c'est le mal. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est des réussites magnifiques. Alexandre le Grand, cet enthousiasmant. J'ai reçu assez de lettres d'insultes parce que je disais que l'islam, c'est magnifique. Justinien ou Théodoric, qui sont moins connus que Alexandre, sont des gens magnifiques. Mais c'est une succession d'échecs.
C'est-à-dire qu'il faudrait changer de point de vue, expliquez-vous. Au lieu de dire que le bien est là, omniprésent, et que le mal le menace, il faudrait considérer que le mal est permanent et qu'il y a des clairières de bien.
Eh bien, c'est ça. Le mal, vous savez, il y a des choses quand même assez brillantes dans le christianisme. L'idée du péché originel, c'est pas une idée absurde. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction sur l'homme. Et cette malédiction, qu'est-ce que c'est? Mais c'est en même temps sa bénédiction, c'est la pensée. Et la pensée se confond avec le mal. Il n'y a pas de mal avant la pensée. Naturellement, pendant des milliards d'années, il n'y a pas de mal. Naturellement, il n'y a pas de mal. Il y a l'univers qui se fait. Et puis, il y a quelque chose de bien intéressant qui arrive dans l'histoire. C'est la souffrance. La souffrance commence avec la vie. Dès que la vie est là, il y a de la souffrance. Les algues souffrent, les bactéries souffrent, elles vieillissent, elles souffrent. Naturellement, la gazelle souffre quand elle est attaquée par le lion. Est-ce qu'on ira dire que le lion fait du mal? Personne, ça viendra à l'idée de personne. Il ne fait pas du mal, il fait son métier. Le mal naît avec la pensée. Et donc, l'histoire est l'histoire d'échec, vous l'avez très bien dit. Il y avait à l'école normale, il y avait un canular comme ça, d'un faux jury qui posait des questions du genre de « qui a fait quoi et en quelle année ?» Et la réponse était « Alaric a éteint le feu sacré à Rome en 410 ». Et l'autre formule, ce qu'on m'avait appliqué, c'est « que se passa-t-il après ?» Et j'avais répondu, ce qui est exactement votre question, et j'avais répondu « l'affaire échoua ».
Canular, ça me fait penser tout d'un coup à Cacan. Vous savez, le héros, un des héros de la gloire de l'Empire. Alors, vous n'avez pas fait d'agrégation d'histoire, mais la gloire de l'Empire, c'est votre thèse d'histoire, sauf qu'il s'agit d'un empire imaginaire.
Mais évidemment, c'est ma thèse d'histoire. Vous savez, quand j'étais vraiment enfant, je faisais des rêves affreux où j'étais refusé à tous les examens à cause des sciences naturelles. C'était pas tellement les mathématiques où j'étais pas très fort, mais les sciences naturelles, les phanérogames vasculaires, les dicotylédons, ça j'étais vraiment mauvais. Et plus tard, à 20 ans, 21 ans, j'avais un cauchemar affreux qui était « je n'ai pas fait ma thèse ». Et vous avez tout à fait raison, la gloire de l'Empire, c'est une thèse en forme de canular, évidemment.
Alors, tous les livres d'histoire que vous n'avez pas fait, parce que c'est une thèse postiche quand même, la gloire de l'Empire.
Absolument.
J'aurais aimé faire une histoire du plaisir.
Oh oui, j'aurais aimé, au fond, j'aurais beaucoup aimé être historien, c'est vrai. J'aurais aimé faire une histoire du plaisir. Je ne sais pas si ça a été fait. Je pense qu'il y a eu les histoires du bonheur. Et il n'y a pas d'histoire de la joie, parce que la joie, c'est au-delà de l'histoire. Mais le plaisir, ce serait un livre d'histoire magnifique. Qu'est-ce que c'était le plaisir pour les Grecs, pour les Romains, pour les barbares, pour
d'autant que l'avenir, écrivez-vous, naît du plaisir. J'aurais aimé faire une histoire de l'avenir.
Ah oui, j'aurais beaucoup aimé faire une histoire de l'avenir depuis les temps les plus reculés. Comment est-ce qu'on imaginait l'avenir? Ce qui est peut-être de très intéressant, c'est peut-être que l'avenir est une idée neuve en Europe, comme disait Saint-Just du Bonheur. Peut-être que l'avenir commence avec les Lumières et la Révolution française, la grandeur de la Révolution française, c'est de changer le monde, de changer la vie, c'était déjà de changer la vie. Mais il me semble que chez les Grecs et chez les Romains, on attendait moins de l'avenir. On voulait que ça continue comme ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas continué comme ça.
Ça n'a pas continué comme ça parce que l'historien, il n'est pas d'abord préoccupé par ce qui est ancien. Il est préoccupé par l'annonce, l'attente et la promesse plus que par le souvenir. Enfin, l'historien, alors, selon d'Ormesson.
Écoutez, il y a une formule que j'aimais passionnément, qui est, je crois, une formule de Hegel, qui est la première catégorie de la conscience historique. Ce n'est pas le souvenir, c'est l'annonce, l'attente, la promesse. Je dis ça un jour à Raymond Aron. Il me dit, vous avez inventé la formule. Je lui dis, comment inventer la formule? Je crois qu'elle est Hegel. Il m'a dit, écoutez, je connais Hegel mieux que vous, ce qui était vrai. La formule n'est pas dans Hegel. Alors, est-ce que je l'ai inventée? Je n'ose pas le croire. Mais je crois plutôt que, comme disait Freud, l'inconscient a bonne mémoire.
Mais tout à l'heure, vous citiez une phrase qui n'est pas de vous, dites-vous, mais vous ne l'avez pas mise entre guillemets dans le Guide des Écarés, votre dernier livre. Et peut-être des phrases qui sont entre guillemets, dont vous ne donnez pas les auteurs, c'est vous qui les avez inventées. Je pense que ça doit être ça.
Peut-être.
Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire, pardonnez la naïveté, mais dans la naïveté, il y a de la gaieté, selon vous, Jean d'Ormesson? Certains pensent que oui, certains pensent que non.
Mais ça, comment ça, c'est vraiment intéressant. C'est une grande division des gens. Il y a des gens qui pensent que l'histoire n'a pas de sens. Moi, je suis du côté des chrétiens, des juifs, des musulmans, des communistes, des trotskistes. Tous ces gens-là pensent que l'histoire a un sens. Pas le même sens, mais a un sens. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas penser que l'histoire a un sens. C'est les gens qui pensent que Dieu n'existe pas, ce qui est tout à fait estimable. Vous savez, j'ai souvent dit, les gens que j'admire le plus, c'est les athées. Parce que qu'un catholique, qu'un musulman, qu'un juif fasse du bien, je ne dis pas qu'il le fait pour être récompensé, mais enfin quand même, vous savez, il se dit « mon avenir est ailleurs qu'ici, mon histoire va continuer au-delà de ma mort ». Et puis, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que l'univers est le fruit du hasard. J'admire beaucoup ces gens qui font du bien.
Sans gratuitement.
Gratuitement. Non pas sans aucune idée de récompense, en refusant l'idée de récompense, je fais du bien parce que j'aime mon prochain. Quand j'ai été malade, j'avais des médecins que j'admirais beaucoup qui étaient athées. Et je leur disais, vous serez assis à la droite de Dieu. Les athées sont assis à la droite de ce Dieu auquel ils ne croient pas. J'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de gens, vous savez, les banquiers, les notaires, les écrivains, les artistes. Ils font peut-être des choses pour les gens agréables, pour eux. Les médecins sont vraiment des saints. Alors, le sens de l'histoire, oui, je crois qu'il y a un sens de l'histoire. Naturellement, je ne sais pas lequel. Il y a des gens qui savent le sens de l'histoire. Les communistes le savent, les catholiques le savent. Moi, je ne le sais pas. Mais je crois qu'il y a un sens de l'histoire. Untergift, der oft die Unschuld tödlich trifft und will allein von Rache, Rache sagen. Gerecht.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean d'Ormesson qui, cet été, publiait plusieurs de ses textes dans la collection Bouquins chez Lafon. Et puis un petit livre, Le guide des égarés, qu'on met lui dans la poche chez Gallimard. Vous êtes un imbécile musical, Jean d'Ormesson?
Oui, notamment musical, mais je ne connais rien à la musique.
Mais là, la cantate BW... V170 de Bach, choisi en votre honneur, parce que vous citez souvent Bach.
Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Vous savez, j'avais un grand-père qui était diplomate. Et malheureusement, on raconte qu'il connaissait tellement peu la musique qu'il confondait la Marseillaise et le boléro de Ravel. Et alors, il fallait toujours le pincer quand c'était la Marseillaise pour qu'il se lève, alors qu'il n'est pas utile de se lever pour le boléro. Et je dois vous dire que les cantates de Bach, c'est quelque chose que je peux écouter pendant des heures et des heures. Et c'est vrai, je ne connais rien à la musique, mais rien.
Jean d'Orbesson, la beauté attend paisiblement, celle de Bach par exemple, les hommes qui passent dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle de tous les livres d'histoire que vous auriez pu écrire, si vous aviez eu suffisamment d'années. Vous dites, il faut écrire... On devrait écrire la vie de tous les hommes, de l'esclave de Grande Grèce comme la vie de Cléopâtre. Mais il y a quand même des vies qui ne sont pas libres ou des vies qui sont bornées et jamais elles ne rejoignent la beauté. Elles ne rejoignent jamais même peut-être l'interrogation et ces vies doivent être comptées.
Écoutez, c'est bien intéressant ce que vous dites. D'abord, je vous suis reconnaissant parce que vous avez dit au passage que vous n'avez pas assez d'années. Vous trouvez que je n'ai pas assez d'années. Moi, je trouve que j'en ai quand même beaucoup trop. Vous savez, en allemand, est-ce que vous parlez allemand?
Mais non. En allemand, je suis un imbécile en langue.
En allemand, il y a deux mots pour histoire. Il y a Geschichte, c'est l'histoire en train de se faire, et il y a Historie. Historien, c'est l'histoire faite par les manuels et par les professeurs. Cette histoire des manuels et des professeurs ne concerne que les puissants de ce monde. On vous parle beaucoup de ces gens que j'aime tellement, Alexandre, Galla, Placidia, personnages merveilleux, Caton, les deux Catons. Mais l'esclave... Alors, naturellement, on parle de ceux qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont été crucifiés, comme Spartacus. Mais ceux qui sont restés dans l'ombre, est-ce qu'ils ne méritent pas aussi une histoire?
Le mineur polonais, l'esclave du Yémen.
Le mineur polonais, l'esclave du Yémen, la prostituée du Moyen-Orient.
Mais dites-moi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'ai entendu François Fillon expliquer que l'histoire dans les manuels doit supprimer les interrogations et qu'on devrait confier à trois académiciens, plutôt qu'au conseil des programmes et aux spécialistes du terrain, la rédaction des manuels d'histoire. Ben, si on confiait la rédaction des manuels d'histoire à Jean d'Ormesson, François Fillon serait bien étonné parce qu'il ne trouverait pas l'histoire dont il pense qu'elle doit être transmise avec l'identité française au centre aux élèves d'aujourd'hui.
Vous savez... J'ai été normalien, j'ai pas parlé de la histoire. Je savais presque tout sur les Grecs, sur les Romains et sur la Révolution française. Un peu sur François Ier, Louis XIV. Je ne savais rien, mais rien, sur les Perses. J'ai appris ça par moi-même, avec éblouissement. L'histoire d'un pays comme l'Iran, c'est éblouissant. L'histoire, je vais encore recevoir des lettres d'insultes avec des sourates, qu'on m'envoie indéfiniment des sourates pour montrer combien je me trompe. l'expansion de l'islam en 80 ans après la mort de Mahomet, c'est quelque chose de stupéfiant. L'histoire chinoise, dont je ne savais rien, je ne savais pas qui était Ti Che Wangti, qui est quand même un personnage d'une dimension stupéfiante. Et donc, il y a des domaines entiers, des pans entiers de l'histoire horizontale que nous ne connaissons pas, mais c'est bien pire avec la dimension verticale, tous ces gens qui ont vécu et que nous ignorons totalement. Peut-être j'écrirai dans les années qui viennent une espèce de roman de l'histoire où on verrait apparaître des gens inconnus au milieu des conquérants et des triomphateurs.
Oh ben ça c'est un projet en cours. 600 pages, parution,
oui.
2018.
2018.
On peut annoncer ça parce que jamais Jean d'Ormesson ne disparaît de l'horizon des Français.
Oui, c'est ça, oui.
Alors là, question très vaste. Il y a l'espace, il y a le temps. Et pendant de nombreuses années, est-ce que c'est dû à votre formation? C'était avant que vous ne vous plongiez dans les littératures scientifiques avec le succès que vous dites. Vous avez conçu l'espace et le temps comme, comment dire, deux cascades qui descendraient du Big Bang.
Oui, exactement.
Et ça vous rendait malade, fou, presque fou.
Oui, je me disais, il y a l'espace, il y a le temps, ces deux choses. Vous savez que c'est pas la poésie qui nous apprend l'origine, c'est l'histoire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'histoire est quand même plus violente que la poésie. Vous savez comment les Grecs ou les Romains imaginaient l'origine du monde. D'abord, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'origine, que l'univers était infini. Et ensuite, la science a montré que l'espace n'existait pas. On ne sait pas bien si le temps a été créé par le Big Bang, mais l'espace est créé par le Big Bang. Et c'est une pointe d'épingle qui va augmenter. Vous savez, c'est aussi extraordinaire que toutes les inventions des mythologies mésopotamiennes, égyptiennes ou grecques. C'est absolument stupéfiant. Et alors je pensais que le temps, c'était aussi la même chose. C'est plus contestable, il y a des gens comme des grands savants qui pense que le temps ne sort pas du Big Bang. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, tout le monde sait que Einstein met le temps et l'espace ensemble. Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé, c'est que les physiciens, les gens de la mathématique physique, vous assurent que le temps n'existe pas. Et ça m'a toujours paru absurde, comment le temps n'existe pas, nous vieillissons, nous mourons. Eh bien, je commence à me demander si, en effet, le temps n'est pas du tout comparable à l'espace. Le temps n'est pas de l'espace mis en mouvement. Le temps, on peut imaginer un espace vide. Vous ne pouvez pas imaginer un temps vide. Il n'y a de temps que parce qu'il y a des objets ou des créatures temporelles. Et on pourrait imaginer que le temps, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais qu'il n'existe pas en dehors de ce qui est dans le temps. Et peut-être que le temps est simplement une espèce d'appel vers la disparition et la mort, ce qui est l'histoire, qui est une autre définition de l'histoire, et qui serait attaché absolument à tout dans ce monde qui est perdu d'avance, puisque non seulement nous mourrons, non seulement vous mourrez et moi je mourrai, mais encore les hommes vont disparaître. Lévi-Strauss était éblouissant sur ce sujet. Les hommes ne remontent pas très très loin, ils ont peut-être encore quelques milliards d'années, mais pas beaucoup plus que quelques milliards d'années, et l'univers lui-même disparaîtra, donc tout disparaîtra, parce que tout est frappé par le temps.
Votre maître Jean Val, c'est un philosophe, parce que nos auditeurs vont penser, quand je vais le citer à Jacques Chancel, disait « Il nous reste 5 minutes si on parlait de Dieu.
Oui.
Eh ben, il nous reste pas 5 minutes et on ne parle pas de Dieu.
Écoutez,
qu'est-ce que vous voulez dire par là?
J'ai beaucoup parlé de Dieu dans mon livre, au plaisir de Dieu, Dieu, sa vie, son œuvre. Ce qu'il y avait de mieux dans le livre, c'était le titre, Dieu, sa vie, son œuvre. Et il y a une vieille dame qui m'a écrit un jour en disant, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. J'avais trouvé ça assez bien. Et alors Jean Val, ou pas Jean Val, j'ai eu une vénération pour mes maîtres.
Ah, si vous pouviez faire une histoire de la transmission des maîtres aux disciples.
J'aurais adoré écrire non seulement une histoire du plaisir, non seulement une histoire de l'avenir depuis les temps les plus reculés, mais une histoire des disciples et le maître. C'est magnifique, vous savez, Socrate et Platon, Richelieu
et Mazarin.
Et Mazarin, et tous les élèves. Le professeur de Rimbaud, dont il parle tellement.
Oui, mais ce qui est intéressant dans la transmission, c'est la liberté, au-delà de la formation, qui est donnée aux disciples. L'homme est toujours libre, on pourrait conclure sur cette idée, Jean d'Ormesson, il est toujours libre et le pire, pour lui, ce n'est pas la mort, même la mort qu'il choisit. Il doit garder un espace de liberté, la libre mort en faisant partie.
Oui. Est-ce que nous sommes libres de faire l'histoire? Est-ce que nous faisons l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui nous fait? Nous ne sommes pas libres, en tout cas, de sortir de l'histoire. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et nous sommes commandés par l'histoire, quelquefois avec une force violente. La mode est quelque chose de très, très, très fort. Et en même temps, si vous acceptez l'idée que vous êtes entièrement commandé par l'histoire, votre liberté disparaît.
Pierre Brossolette, quand il est prisonnier de la Gestapo, il a encore la liberté de se jeter par la fenêtre.
Oui. Ou Solzhenitsyn, quand il est au goulag, vous savez ce qu'il faisait? Il était libre de réfléchir. Il pensait, il écrivait son livre dans sa tête. Et tous les matins, il répétait ce qu'il avait fait jusque-là. Et puis un jour, il est allé trop loin. La répétition de ce qu'il avait déjà fait le prenait du matin au soir. C'est magnifique. Et Brodel n'est pas très très loin.
Qui a écrit sa thèse.
Je crois qu'il a écrit
sa thèse.
Sans document.
Dans son camp de prisonnier.
Sur Philippe II, le Méditerranée, dans son camp de prisonnier. Ça, c'est quand même magnifique. L'histoire est la liberté, et en même temps, nous sommes prisonniers de l'histoire.
Merci à vous, Jean d'Ormesson. Bouquin chez Lafon, plusieurs de vos grands textes. Dans La Fête des Jours, l'un de ces textes, un étonnant dialogue sur l'histoire, Le Guide des Égarés, chez Gallimard. L'émission était préparée par l'équipe de La Marge de l'Histoire, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Mathilde Novel avec à la réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Anne-Laure Cochet.
Merci Jean Lebrun, rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine de la Marche de l'Histoire. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Mathieu Vidard pour le club de la tête au carré. Au menu de l'émission, le journal de Spirou, la cryptozoologie et deux jeunes femmes passionnées de science, Nina Miolan et Aurélie Bourdon.